passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Elisabeth Gousselin, pour évoquer une très grande dame du théâtre français, Sarah Bernard. Elisabeth Gousselin, bonjour. Vous publiez Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard. C'est aux éditions de l'Archipel. Je rappelle que nous célébrons cette année le centenaire du décès de Sarah Bernard. C'est l'opportunité qui justifie ce roman biographique remarquablement rédigé, tout à fait saisissant, qui vient d'ailleurs d'obtenir un prix, le prix coup de cœur du jury du prix Simone Veil.
Absolument, je vous remercie pour cette présentation formidable de mon livre et ça me touche beaucoup que vous en ayez apprécié le style, car c'est vrai que, oui, et puis ça a été confirmé par ce prix auquel je ne m'attendais pas et qui est vraiment, vraiment formidable, parce que Simone Veil est une personnalité incandescente, un cœur juste, une femme engagée, une femme de tête et de cœur. Et j'oserais dire que ma chère Sarah Bernard, ma foi, se serait probablement très bien entendue avec Simone, même si les caractères divergent, avec Simone Veil, même si les caractères divergent, il y avait cette passion de l'engagement et de la justice.
Certes, mais moi j'ai connu personnellement Simone Veil, je l'ai rencontrée à 3 reprises, je pense qu'elle était quand même beaucoup plus réservée que Sarah Bernard.
Bien sûr. Hein. C'est pour ça que je précise les
caractères. Sarah Bernard est quand même un peu déjantée par certains côtés, si vous me permettez l'expression.
Vous avez entièrement raison. Non, je voulais parler, car je sais qu'à un moment vous m'y entraînerez, je voulais parler de l'affaire Dreyfus.
D'accord, bien sûr.
Voilà, Sarah s'est démenée.
Sur ce point, on est tout à fait d'accord.
Voilà, et Simone Veil était une grande... combattante de la liberté et de la justice. Voilà,
alors, vous permettez ce que offre la liberté de la romancière, c'est d'inverser la chronologie, de commencer votre roman par la fin, en quelque sorte, c'est-à-dire par la mort et les funérailles de Sarah Bernard.
Oui, parce qu'elles étaient assez frappantes. Plus de 40 000 personnes, le théâtre du Châtelet voilé d'un crêpe noir, une France finalement très présente et très vibrante et venant se recueillir boulevard Perrer, là où sa dernière adresse, hein, cet hôtel particulier du boulevard Perrer à Paris qu'on ne peut plus voir, qui a été complètement détruit. Enfin, je veux dire, on ne peut plus. Moi, en tant que biographe, je suis allée évidemment sur chercher toutes les adresses possibles et imaginables de Sarah, mais tout a été détruit, on ne retrouve rien aujourd'hui de l'époque. Et oui, vous avez raison, c'était un enterrement spectaculaire, peut-être le plus important depuis, c'est ce que j'écris dans mon livre, depuis la disparition de Victor Hugo. Alors évidemment, les obsèques de Victor Hugo étaient encore plus spectaculaires et incroyables. Mais le lien entre Victor et Sarah, c'est qu'ils ont été amants, donc ça c'était amusant de relier ces deux cérémonies.
Alors, Sarah Bernard est issue d'une mère, puisque le père est tout à fait inconnu, mère qui est elle-même d'origine juive polonaise, famille qui s'est installée une génération plus tôt aux Pays-Bas, mais qui conserve cet atavisme juif polonais en parlant le yiddish, cette mère qui vit avec sa sœur à Paris, qui est ce qu'on appelle une demi-mondaine, c'est-à-dire une prostituée de luxe dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire celui de la monarchie de Juillet et du Second Empire, mais une mère qui n'a pas assumé ce rôle en délaissant complètement sa fille aînée.
Absolument, absolument, c'est exactement ça, Jean-François. On peut déjà, grâce à votre présentation, visualiser, et c'est le début de mon livre, l'extrême dénuement et l'extrême angoisse qui étreint cette petite fille qui naît, je ne trouve pas d'autre mot, dans un bordel chic, car rue Saint-Honoré, là où Rosine et Judith, les deux sœurs Bernard, tiennent salon, certes, la crème de l'époque est habituée à leur charme qu'elle monnaie. On trouve Alexandre Dumas, on trouve Rossini, on trouve Bizet, on trouve le duc de Morny, qui est le protecteur de la mère de Sarah.
Précisons pour nos auditeurs que le duc de Morny, c'est le demi-frère de Napoléon III. Il fut son ministre de l'Intérieur, puis président de la Chambre. C'est le personnage le plus important du Second Empire après l'Empereur.
Absolument, d'une influence insensée, ses désirs sont des ordres. Donc avoir dans son giron, avoir comme protecteur le duc de Morny, pour Judith Bernard, c'est un trophée. Mais pour la petite qui naît là-dedans, mais c'est une catastrophe, c'est un désastre, c'est une misère de tous les jours. Ces messieurs égrillards qui tournent autour de la mère et de la tante, qu'est-ce que ça veut dire pour une petite fille? Ces fêtes qui n'en finissent pas et se réveiller au matin dans des odeurs de champagne et de cigares tièdes, de mégots. Enfin, vraiment, c'est épouvantable. Elle aurait pu finir dans le caniveau. C'est ça qui m'a passionnée dans l'itinéraire de Sarah Bernard. Elle était programmée pour le désastre. J'ajoute que cette femme, qui était sa mère et qui n'avait de fibre maternelle aucune, qui n'avait aucune fibre maternelle, avait également sous sa charge deux autres petites bâtardes, dont les pères sont tout aussi inconnus, mais en faisant des recherches, j'ai pu comprendre que c'était dans le milieu haut gradé et militaire qu'elle avait recruté ces deux hommes qui étaient les pères, qui n'avaient pas reconnu les filles non plus. Donc imaginez trois pauvres petites filles qu'on cachait presque tout le temps à la vue des messieurs et qui vivaient dans cette ambiance. Alors assez vite, qu'est-ce qu'on fait? La maman, elle décide d'envoyer la petite en nourrice, elle l'envoie d'abord en Bretagne en nourrice, ensuite elle l'envoie en pension. Elle fait tout ce qui lui est possible pour éloigner cet encombrant petit paquet qui fait désordre dans le salon très chic de la mère. C'est désolant. Moi, quand j'ai entrepris mes recherches sur Sarah Bernard, j'ai voulu vraiment mettre en lumière ses débuts dans la vie qui sont un père quasiment inconnu, un milieu sordide dans lequel elle évolue petite fille, et une mère qui la prive d'amour et qui la privera d'amour toute sa vie.
Elle reproduira d'ailleurs elle-même cette logique ne vivant pas avec le père de son fils Maurice. Un père qui n'assumera pas ses responsabilités parentales et qui est un aristocrate belge, un important aristocrate belge.
Et oui, il s'agit du prince de ligne qu'elle rencontre et c'est l'époque où elle est libertine elle aussi, parce que quand vous disiez elle reproduira le schéma maternel, elle le reproduit jusque dans ses plus tristes aspects. Elle va devenir demi-mondaine elle aussi pendant 4-5 ans. Elle va gagner sa vie en faisant le plus vieux métier du monde, un peu obligée par sa tante et par sa mère. Voilà, donc quand elle rencontre le prince de ligne, parce que évidemment en même temps elle est un petit peu actrice, donc elle rencontre des gens intéressants, c'est un mélange, vous voyez, elle est à la fois courtisane, elle devient un petit peu comédienne grâce au duc de Morny, on y reviendra, c'est un mélange, elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas les codes du savoir-faire ou du savoir-être. Elle est le produit hybride d'une courtisane et de ses rencontres qui sont parfois glorieuses. Alors en effet, le prince de ligne s'en tiche d'elle, la met enceinte et puis s'enfuit. Et voilà, le seul fils, et j'irai même plus loin, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé, c'est ce fils, c'est ce Maurice qui naît d'une aventure sans lendemain et d'un aristocrate, et d'une aventure avec un aristocrate belge, qui du reste... quand Sarah Bernard deviendra Sarah Bernard, c'est-à-dire la plus grande actrice, la légende mondiale, émettra le souhait de reconnaître ce fils, mais ce sera un peu tard. Et le fils ne voudra pas, il dira « moi je m'appelle Bernard, Maurice Bernard ». Et Sarah sera et le père et la mère de ce petit être.
Sarah Bernard fait ses débuts au théâtre grâce au duc de Morny.
Absolument. Aujourd'hui on appelle ça un piston. autrefois on disait une recommandation, mais enfin, comme vous l'avez souligné, Morny, il suffit qu'il passe un ordre pour que l'ordre soit exécuté. Donc ce fut un jeu d'enfant qu'elle passe le conservatoire et qu'elle le réussisse. Elle a à peu près 15-16 ans. Et ce fut également un jeune enfant qu'une fois terminé le conservatoire, elle atterrisse dans le temple des temples, dans la maison mère, dans le saint des saints, à savoir la Comédie française. Donc si vous voulez, au départ, on ne peut pas dire que c'est le talent de Sarah qui la propulse.
Mais ses débuts sont même plutôt catastrophiques.
Voilà, c'est ce que je dis dans mon livre. Les critiques de l'époque sont affligées. Ils la trouvent catastrophique. Elle a un physique étrange. Elle a un physique qui correspond pas du tout aux héroïnes de Zola. Enfin, je pense à Nana. Sa mère, oui, ressemble à Nana avec sa frange mousseuse, son chignon, ses corsets, ses robes avantageuses et ses formes avantageuses. Sarah, non. Elle c'est une fille d'aujourd'hui, de 2023. C'est-à-dire, elle est longue, elle a des longues pattes de héron.
Elle est un peu androgyne.
Voilà, c'est une fille d'aujourd'hui, donc c'est vraiment un physique qui déplaît. Et puis elle n'a pas vraiment intégré l'art dramatique, parce qu'elle s'en fiche un petit peu, c'est un tempérament rebelle qui se fiche un petit peu, qui n'aime que la discipline indispose et que la discipline indisposera toute sa vie. Donc elle n'est pas très bonne. Le jour de sa première, elle joue Iphigénie, qui est un rôle écrasant à sa décharge. Mais elle subit dans la presse des descentes en flammes. On la traite d'insuffisante. C'est terrible, insuffisante comme adjectif.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Et on vous retrouve ensuite, Elisabeth Gousseland, pour poursuivre cette narration de la vie, de la folle vie de Sarah Bernhardt. Je rappelle le titre du roman historique, roman biographique que vous publiez aux éditions L'Archipel, Scandaleuse Sarah. C'est Michel Fugain qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons pour commencer un titre de 1972. Il est accompagné du Big Bazar. Attention, mesdames et messieurs.
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important.
On va commencer.
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore.
Say it.
Vous écoutez Passé, Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Elisabeth Gousseland, pour le livre qu'elle publie aux éditions L'Archipel. Il s'agit d'un roman biographique intitulé « Scandaleuse Sarah ». La folle vie de Sarah Bernhard. Alors, Sarah Bernhard, nous l'avons vu, fait des débuts, je dirais, assez peu encourageants au théâtre. Elle est intégrée à la Comédie française, et ce, grâce à l'intervention du duc de Morny, son protecteur. Mais cela ne dure que 8 mois.
Et oui, cela ne dure que le temps d'un éclair, parce que, comme je vous l'ai dit, elle est très jeune, elle est très inexpérimentée, elle vient du ruisseau, du caniveau, hein, celui de la rue Saint-Honoré. Elle a fait un détour par le couvent, il faut quand même qu'on le dise pour que les...
À Versailles.
Voilà, que les auditeurs comprennent son rapport au judaïsme, qui est, comment dirais-je, complexe, parce que on ne le lui dit pas. On ne le lui dit pas qu'elle est issue d'une lignée juive ashkénaze. On ne le lui dit absolument pas. Donc, comme elle est très intelligente, Sarah, elle entend parler sa tante et sa mère dans un curieux idiome où elle entend de l'anglais, de l'allemand, etc. Donc, voilà, elle entend du yiddish. Mais personne ne lui dit « Tu sais, Sarah, tu es juive. » Personne. De plus, on l'envoie au couvent. Donc, c'est la totale.
Alors, on l'envoie au couvent pour étudier. Hein,
mais... Non, en pension, parce que... Non, mais même pas. En pension, parce qu'il faut s'en débarrasser. C'est Amédée ou s'en débarrasser. C'est la pièce de Ionesco. C'est-à-dire, comment s'en débarrasser
Mais elle est saisie par une crise mystique. Et elle va être baptisée.
Et communiante et baptisée dans la foulée. Alors, c'est complètement étrange. Vous imaginez l'état de confusion mentale et spirituelle dans laquelle cette petite se trouve. C'est pour ça qu'elle m'a énormément touchée, Sarah Bernhard. C'est parce que sa trajectoire est totalement singulière. Et en même temps, elle résonne aujourd'hui. On connaît tous, enfin moi j'en connais, vous aussi, tout le monde connaît des enfants juifs qui sont passés par la case institution religieuse catholique. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera. Et donc, ce mélange m'a paru très très intéressant. Qu'est-ce qu'elle allait en faire? Petite fille, évidemment qu'elle en fait une passion pour le Christ, c'est bien normal. Son père, elle le connaît pas. Sa mère la rejette. Elle se retrouve avec des petites filles et des religieuses. Évidemment, elle se coule dans ce moule et elle a des parents totémiques, un petit Christ, une petite Madone. Et voilà comment elle tient le coup, parce que c'est terrible d'être dans un pensionnat religieux. C'est épouvantable en termes de discipline et d'austérité, elle qui a un caractère fantasque. Donc, je tenais à cette parenthèse pour qu'on comprenne bien cette petite Sarah Bernhard ne va découvrir que très, 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 très tard qu'elle est juive. Et ce qui est beau, c'est que quand elle le découvrira, loin de s'en cacher ou de le dissimuler, elle en fera une gloire, une dignité, un sujet de fierté. Un sujet de fierté à quel moment? Au moment le pire de l'histoire de France. Au moment où l'antisémitisme naît chez nous, en France, avec Drummond et son pavé haineux, la France juive. C'est quand elle va subir les attaques des antisémites sur scène qu'elle va comprendre et ressentir qu'elle est juive. Voilà, je tenais dans mon livre à rétablir tout cela.
Et elle va s'engager aux côtés d'Émile Zola pour la défense d'Alfred Dreyfus.
Exactement.
Et ça, alors que son fils empruntera le chemin inverse.
Et ce sera la seule fois où elle aura des disputes terribles et qu'elle ne verra pas Maurice, qui est le seul homme qu'elle ait vraiment aimé, c'est son fils. Et c'était un déchirement pour elle que de se séparer à cette occasion de son fils, mais elle était dreyfusarde. Elle était ardemment dreyfusarde et moi, j'étais stupéfaite, je ne savais pas, c'est en fouillant dans les archives que j'ai découvert qu'elle était allée voir Émile Zola. Donc on a, vous qui êtes historien le savez bien, on a les articles dans le Figaro de Zola, et puis on a le J'accuse dans l'Aurore. Et il y a une gradation comme ça, hein,
Tout à fait.
Hein, voilà. Eh bien, c'est au moment du Figaro qu'elle va voir, avant le J'accuse, elle va voir Zola. et ils ont une discussion dont je ne peux pas restituer les mots parce que je ne les ai pas, mais j'ai la teneur, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une telle conviction chez Sarah, et on peut imaginer à quel point elle était convaincante quand elle était exaltée, qui a fait que Zola, alors elle n'est pas la seule à avoir conseillé Zola, mais elle a fait partie des premiers de Dreyfusard.
Alors, la vie sentimentale de Sarah Bernhardt est très riche. Elle a eu un très grand nombre d'amants. Il y en a deux qui sortent du lot, en quelque sorte. C'est Victor Hugo, une liaison qui va durer près de 10 ans. Et puis également une liaison avec un acteur très célèbre en son temps, Jean Mounet-Sully.
Oui, absolument. Alors, Mounet-Sully, c'est une liaison, on va dire, classique, au sens où il n'est pas plus âgé qu'elle, pas tellement. Il se rend compte quand elle réintègre le français, parce qu'elle fera des allers-retours entre l'Odéon, le français et d'autres, la Comédie française et d'autres théâtres. À partir de 27, 28 ans, sa gloire étant établie, elle fait à peu près ce qu'elle veut, quoi. C'est elle qui décide de sa carrière. Et c'est pour ça qu'elle est admirable et d'avant-garde. Et féministe avant l'heure, hein, à une époque où le féminisme n'existe pas. Et elle rencontre Mounet-Sully, qui est très beau, qui est très célèbre aux Français, qui est vraiment le Podalydès de l'époque, hein, on pourrait dire, qui est très brillant, mais qui est très colérique. Alors, le directeur de la Comédie française va exploiter leur liaison, c'est-à-dire un peu comme aujourd'hui, ça va être de la publicité, c'est-à-dire que dès qu'ils vont jouer ensemble, il y aura dans la presse leurs photos à tous les deux, ils sont amoureux sur scène et dans la vie, enfin, vous voyez, tout ce genre de publicité et de romance relayée par la presse, ça existait déjà au 19e et au début du 20e, bien entendu. Et voilà, mais cette liaison est à la fois torride et très colérique et très toxique. Mais Sarah n'a engendré que des passions toxiques autour d'elle, parce qu'elle était probablement hystérique. On parlait d'hystérie à ce moment-là. Charcot commençait à faire ses recherches à la Salpêtrière. Et j'ajoute que Freud est venu voir à Paris des représentations de Sarah, et qu'il en a fait une étude de cas, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment intéressé à Sarah Bernhardt. Il subodorait l'hystérie.
Sans l'avoir jamais psychanalysé formellement.
Exactement. Et je me suis donc, en tant que romancière, c'est possible, permis un petit chapitre où j'imagine la rencontre fictive, mais qui aurait pu se passer, puisqu'ils étaient contemporains, entre Freud et Sarah, et ça donne une scène assez rigolote où il la psychanalyse.
Le seul homme avec lequel elle se mariera, c'est un Grec, Aristide Damala, et alors là, c'est un fiasco total.
Et oui, mais quand je vous disais qu'elle ne suscite et provoque que des liaisons torrides et toxiques, alors là, le mot toxique est bien choisi, puisqu'il est opiomane, héroïnomane. Voilà, et donc il est accablé de ce mal incurable, dont du reste, la sœur de Sarah, la demi-sœur, hein, puisqu'il y avait trois petites bâtardes, la demi-sœur périra, car elle était également héroïnomane, Jeanne, et d'ailleurs c'est Jeanne qui présente Aristides Damala à Sarah, et voilà, il est héroïnomane.
Il vit à ses crochets.
Il l'oblige à le faire monter sur scène, il est absolument nul, mais c'est comme ça, elle l'a dans la peau, donc elle obéit à tous ses ordres. Il a 10 ans ou 12 ans de moins qu'elle, il la trompe, il la vole. Enfin, c'est épouvantable. C'est une liaison qui dure aussi une dizaine d'années. Ce sera son seul mariage et ce sera un naufrage.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent. On vous retrouve ensuite, Elisabeth Gousseland, pour évoquer la vie de Sarah Bernhardt. C'est toujours Michel Fugain. C'est toujours un titre de 1972 avec toujours le Big Bazar. Une belle histoire.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le...
C'est une romance d'aujourd'hui.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Elisabeth Gousselin, pour le roman biographique qu'elle publie aux éditions L'Archipel, Scandaleuse Sarah. La folle vie de Sarah Bernhard. Sarah Bernhard qui va avoir un immense succès outre-Atlantique.
Ah ben oui, c'est-à-dire que ça, on n'a plus eu en France, on n'avait pas eu et on n'a plus eu depuis. Parce que je peux pas dire que Maurice Chevalier ait eu le même succès, c'était plus éphémère. Sarah Bernhard, elle va arpenter le monde entier. Et elle va se produire une dizaine de fois aux États-Unis, mais dans toutes les villes des États-Unis. En Louisiane, elle adoptera un bébé caïman. Parce que oui, il faut quand même se figurer une femme très extravagante.
Oui, même excentrique, on peut le dire franchement.
Ah ben totalement.
Puis elle vit avec une panthère, elle dort dans un cercueil.
Ses appartements, ses hôtels particuliers sont décorés d'une manière insensée, avec faune, flore, végétation luxuriante, palmiers, et en effet un bestiaire vivant, des léopards, des panthères, des pumas, et du reste les visiteurs sont parfois effrayés quand ils vont chez Madame Sarah, où elle reçoit sur un sofa, telle une odalisque, en s'éventant avec un éventail en plume de cygne. Alors oui, tout est sous le signe de l'extravagance, d'où Freud. Freud avait bien saisi tout cela. Il avait bien saisi qu'il y avait, quelque chose d'ambivalent dans sa personnalité et de probablement hystérique, puisqu'il était en train, avec Charcot, de mettre à jour l'hystérie. Sauf que c'était une hystérique qui vivait bien son hystérie, puisqu'elle jouait deux, trois fois par jour, parfois. Parfois, elle alternait trois pièces. Elle avait une mémoire extraordinaire. On peut parler d'hypermnésie. C'est-à-dire que ça ne lui coûtait pas d'apprendre une centaine de vers d'Alexandre Grand de Voltaire. Elle s'en sortait admirablement. Donc, elle était très intelligente. Moi, j'ai eu accès à ses écrits. Elle écrivait remarquablement. Elle avait une plume excessivement drôle et coriace et féroce. Alors, elle était douée en tout, puisque aujourd'hui, au Petit Palais, on lui rend hommage à Paris pour ses dons de sculpteur. Moi, je n'aime pas dire... je n'aime pas féminiser les noms. Et peintre.
Oui, voilà, car donc, c'est une artiste tout à fait polyvalente.
Polyvalente, complète, touche à tout. Ça lui a valu beaucoup de critiques du reste. Et c'est encore Zola, son ami, qui la défendra lorsqu'on lui reprochera d'être sur tous les fronts. Il écrira dans le Figaro. Et alors quoi ? Il faudrait empêcher le cumul des talents, écrira Zola, ce qui était absolument admirable. Voilà, oui. Et puis en plus, c'était une femme. Imaginez une femme dont on parle tout le temps, tous les jours, dans tous les journaux. Les hommes étaient tout à fait étonnés et un peu fâchés de cette aura.
Une femme, Elisabeth Gousselin, qui a de très gros besoins d'argent.
Voilà.
Il y a cette dépendance à l'argent qui va souvent justifier ses choix artistiques.
Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'en effet, elle aime flamber. Ne nous cachons pas la réalité des choses. Elle aime le luxe. Elle a plusieurs maisons. Elle va acquérir le fort des Poulains à Belle-Île.
Elle a un hôtel particulier à Paris.
Voilà. Une autre maison en province. Elle flambe. Alors ça, on pourrait dire que c'est un défaut. Bon, admettons. Mais c'est surtout qu'elle entretient tout le monde. Et ça, c'est pas un défaut, c'est une preuve de générosité absolument dingue. Elle entretient ses domestiques, d'accord, mais sa petite sœur qui va finir à 20 ans mourant de tuberculose, parce que cette mère était décidément si indigne qu'elle ne s'occupait même pas de ses deux autres petites bâtardes. Donc, elle va recueillir l'une des petites sœurs. Et puis après, il y aura Maurice, son fils. Et quand Maurice va épouser une femme, eh bien, elle va entretenir ce ménage. Et puis, elle va aussi entretenir les enfants qu'aura Maurice. Quelque part, sa générosité, on n'insiste pas assez là-dessus, mais elle est assez extraordinaire, sa générosité.
Elle souhaite absolument préserver son indépendance, et c'est la raison pour laquelle elle fait l'acquisition, le 1er janvier 1899, du Théâtre des Nations à Paris, qui va devenir le Théâtre Sarah Bernhardt.
Voilà, alors ça aussi c'est extraordinaire, il n'y a pas d'autre femme qui est à la fois actrice, comédienne, pour qui on écrit des pièces. Edmond Rostand va lui porter l'aiglon et d'autres pièces. Son homonyme, Tristan Bernhardt, va lui porter des pièces. Tout le monde veut écrire pour Sarah. C'est un phénomène. Elle va constituer sa propre troupe parce qu'elle a fait l'expérience à l'Odéon et à la Comédie Française des limites du fait de n'être que une interprète. Elle veut tout diriger. Elle a une volonté et une ambition démesurée. C'est pour ça aussi qu'on l'attaque beaucoup. C'est qu'elle est too much, Sarah Bernhardt, pour l'époque. Songez qu'elle fait 10 fois le tour du monde. Personne ne fait ça. À une époque où on fait pas le tour du monde en jet privé, mais en bateau, à vapeur, en train, sur des routes chaotiques, dans des diligences. Enfin, elle a une énergie, une volonté et une ambition absolument incroyables. Donc oui, elle achète le Théâtre des Nations, elle en fait le théâtre Sarah Bernhardt, elle le redécore de fond en comble, elle en redéfinit toutes les règles, et puis elle a sa propre troupe, ses comédiens. Donc pour tout ça, il fallait de l'argent, il fallait que les spectacles marchent, et c'était aussi une femme d'affaires. C'est-à-dire que quand elle se rendait compte qu'une pièce ne marchait pas, elle la jetait aux ordures, et elle en réclamait une autre, et elle en montait une autre. Elle avait une énergie absolument incroyable.
Sarah Bernhardt va vivre une vieillesse pas très heureuse en raison de graves problèmes de santé. Elle souffre d'urémie, elle souffre surtout de la jambe. Sa rotule l'abandonne en raison de son jeu particulièrement intense qui fait qu'elle tombe régulièrement à terre durant ses pièces de théâtre, et cela va fragiliser cette rotule à tel point qu'elle est contrainte à l'amputation.
Et oui, c'est un drame, mais cette femme possède une telle énergie renouvelable que ça ne va pas l'arrêter. Ça aurait mis un point d'arrêt à n'importe quelle carrière. Mais Sarah, une fois amputée, dira « Bon, ben, j'ai une idée. Il y a tout un tas de pièces que je peux jouer couchée ou assise sur scène. » Et c'est ce qu'elle fera. C'est-à-dire que, loin de renoncer, elle va continuer à jouer, à adapter le répertoire à son invalidité. Elle ne se plaindra jamais. Elle fera preuve d'une force de caractère inouïe.
Elle refuse de porter une prothèse.
Elle envoie valser ses prothèses. Et voilà. Et le jour où elle monte à Thalie, le public est tellement sidéré par sa performance que lorsqu'elle va réciter le fameux vers de Racine pour réparer des ans l'irréparable outrage, elle va faire une césure entre les deux vers, à l'hémistiche, ce que personne n'avait fait avant elle. Et d'un air là, elle va balayer son bras à travers la salle et regarder en chuchotant la deuxième partie du vers son cher public. Et tout d'un coup, tout le monde se met debout et l'ovationne pendant 10 minutes. Parce que c'est pour réparer des irréparables outrages alors qu'elle a plus de 70 ans. C'était une façon de dire qu'elle se battait et qu'elle exaltait la vie contre la mort. Et ça a été quelque chose. Les gens adoraient Sarah. Les gens adoraient Sarah. Le public adorait Sarah Bernard.
Elle perd sa jambe droite le 22 février 1915, mais elle souhaite quasiment dans la foulée participer à la grande tournée aux armées qui est organisée en pleine Première Guerre mondiale pour soutenir le moral de la troupe. Au ministère de la Défense, on est plutôt réticent.
Absolument, vous avez raison, parce que est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un poison si elle mourait sur scène et si elle avait un autre accident, c'est une vieille dame, effectivement, atteinte de crise d'urémie, on lui a enlevé un poumon en plus, donc elle a plus qu'une jambe, plus qu'un rein, plus qu'un poumon. Alors son courage force l'admiration, mais il y a des craintes. Et bien pourtant, on va lui dire oui. Là, elle dépend encore de l'administration de la Compagnie française à cette époque. Et les gens du français lui disent « Bon, bah écoutez, de toute façon, on ne peut jamais dire non à Sarah Bernard, donc on va lui dire oui. » Elle le fait, elle va soutenir le moral des troupes et les soldats vont l'ovationner, comme son public à Paris l'ovationne, parce qu'elle est devenue une petite chose, toute recroquevillée, dans ses immenses robes de taffetas. Mais elle est admirable de courage, et ça, elle le fait très très bien passer.
En 1921, elle est faite chevalier de la Légion d'honneur. Elle n'est pas la première actrice à obtenir cette décoration.
Oui, et là, vous me permettez, Jean-François, de revenir sur la structure, sur la narration de mon livre.
Bien volontiers.
C'est-à-dire que je ne voulais pas faire une biographie classique de Sarah Bernard. D'abord, si on avait eu dans les années 70. Et puis parce que j'avais, comme tout le monde, vu et admiré le film Amadeus de Miloš Forman. Et Amadeus de Miloš Forman, ce qu'il y a de frappant dans ce film, c'est que Forman décide de faire raconter la vie du jeune prodige Mozart par un homme plus expérimenté, plus âgé, qui est aussi un compositeur très talentueux, mais qui n'a pas l'aura, la publicité et le triomphe de
Salieri.
Absolument. Je crois qu'on a tous été frappés par ce film. Et je me suis dit, ce serait bien que je trouve un Salieri pour ma Sarah. Et je suis allée aux archives de la Compagnie française, où on m'a ouvert très gentiment les portes, et j'ai demandé les dossiers de toutes les comédiennes de l'époque. Et mon Dieu, c'était un sacré travail. Je me suis retrouvée avec des piles de dossiers jusqu'au plafond. Je suis restée assez longtemps à la salle des chercheurs et j'ai mis la main sur ma Salieri. C'est-à-dire qu'elle s'appelait Julia Bartet. Il fallait qu'elle ait un lien avec Sarah. Et j'ai trouvé ce lien. Elles étaient très amies et en même temps rivales. Pourquoi ? Parce que Sarah prenait toute la lumière. Elle ne laissait de place à personne. C'est un monstre sacré, comme le dira Cocteau. Et cette petite Julia Barthé était plus jeune de 10 ans. Elle était aussi très courageuse, très, très intéressante. Elle avait un palmarès formidable à la Comédie française. Elle avait également joué Rubla. Et elles avaient toutes les deux, c'est ce que j'ai découvert dans les archives, elles avaient toutes les deux un très gros point commun, c'est qu'elles avaient toutes les deux élevé seules leur fils, qu'elles avaient eu d'une liaison pas très, assez clandestine. Et autre point commun, les deux jeunes gens s'appelaient Maurice. Bref, ça les a soudés. Cette affaire de mère célibataire les a soudés. Et c'est Julia Barthé qui raconte dans mon livre la vie de Sarah Bernhardt, un peu comme Salieri, même si je ne prétends pas avoir réussi ce challenge de Forman, mais un peu comme Salieri raconte avec à la fois admiration et une pointe de jalousie, ben, la vie du génie. Vous voyez ce que je veux vous dire ?
Tout à fait. Sarah Bernhardt décède en son hôtel particulier, qui fut d'ailleurs le cadre, vous en direz un mot, Elisabeth Gousselin, d'un tournage cinématographique quelques semaines avant son trépas. Elle décède le 26 mars 1923 et elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise.
Absolument. Oui, elle était âgée. Mais elle ne voulait pas renoncer. Et elle vivait dans cet hôtel particulier. Et sur la fin de sa vie, Sacha Guitry, qui n'avait pas d'éloge, il disait d'elle, génial à volonté. Voilà. On ne pouvait pas faire mieux comme qualificatif de la personnalité de Sarah Bernhardt. Il disait, elle est ma deuxième mère. Il disait, elle est admirable. Elle est la plus grande de tout. Il avait pour elle, quelque chose qui relevait du sentiment filial, Sacha Guitry. J'ajoute que Lucien, le père de Sacha, était un camarade de Sarah et qu'il appartenait à la troupe de théâtre de Sarah. Donc le lien était très fort avec la famille Guitry, mais Sacha en faisait trop, donc il lui avait proposé un sujet de roman qui était une pièce de théâtre, elle était déjà trop fatiguée, la pièce n'alla pas plus loin que la première. Et puis, il voulait tellement la garder en vie, il était tellement fou d'elle, qu'il s'est dit, il faut qu'elle fasse du cinéma. Et il a fait venir un réalisateur américain à Paris, avec une équipe technique à demeure, boulevard Perrer, et ils ont commencé à tourner un film pas très intéressant, où elle était, pour son dernier rôle, c'est quand même assez, assez tragique, elle était une cartomancienne, c'est pas très reluisant. Elle avait un fichu sur les épaules, et puis un ouistiti, et puis une boule de cristal, bref. Les lumières, les projecteurs, les ordres contradictoires de l'équipe de cinéma. Elle n'aimait pas ça, le cinéma naissant, elle trouvait ça stupide. Elle n'aimait que la scène. Au bout d'une semaine, eh bien, ce tournage a raison d'elle et elle s'éteint dans une crise d'uranie.
100 ans après sa mort, que reste-t-il de Sarah Bernhardt ?
Il reste que c'est un des rares patronymes qu'on peut lancer à la cantonade à un dîner et où tout le monde a quelque chose à dire, où tout le monde va parler soit de sa chevelure rousse incendiaire, soit de son caractère et de sa devise qui était quand même, c'est-à-dire que je quand même la résume, voulant dire que aucun obstacle ne peut l'arrêter. Il restera sûrement Phèdre. Dès qu'on dit Sarah Bernhardt, on va penser à Racine, on va dire Phèdre.
Et à l'Aiglon.
On va dire l'Aiglon, on va dire la Dame aux Camélias. On va dire la personnalité, l'artiste française du 19e siècle qui a rayonné dans le monde entier, y compris aux États-Unis.
Merci beaucoup, Elisabeth Gousselin, pour cette passionnante évocation de la vie de Sarah Bernhardt à travers votre roman biographique intitulé « Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernhardt ». C'est publié aux éditions de l'Archipel. Il ne me reste plus qu'à remercier Thomas qui a réalisé cette émission. C'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec Michel Fugain, mais cette fois-ci sans le Big Bazar. C'était un peu avant sa constitution. C'est peut-être son premier succès en 1969. Je n'aurai pas le temps.
Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. Comme l'on doit aimer quand on aime vraiment, même en cent ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps.